Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité, des routes coupées, des écoles et des habitations détruites, tel est le bilan des inondations enregistrées voici 2 semaines dans plusieurs localités des territoires de Bomongo dans l'Équateur et de Boudjala dans la province du Sud-Ubangi. À l'approche des élections générales en RDC, les candidatures féminines en campagne électorale sont actuellement visibles ici à Kinshasa. La CENU assure que 17% des candidats à la députation nationale sont des femmes sur 25% à la députation provinciale. En réaction, le CAFCO parle d'un faible taux d'alignement des femmes. Notre invité, c'est le secrétaire général du Centre médico-légal de l'Université officielle UOB de Bukavu. Le professeur Arnold Nyaluma affirme à Radio Okapi que ce centre constitue un pont entre la justice et la médecine. Madame, messieurs, bonsoir. Depuis environ 2 semaines, les inondations font rage dans plusieurs localités des territoires de Bomongo, dans la province de l'Équateur et de Boudjala, dans le Sud-Ubangi. Les routes sont actuellement coupées et les écoles, mais aussi les habitations détruites. Les sinistrés appellent à l'aide d'urgence. Pour en parler, retrouvons à Mbandaka Paul-Richard Malengela.
À la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la région du Grand Équateur, les eaux du fleuve et de plusieurs cours d'eau ont quitté leur lit. Dans plusieurs localités, les habitants font face aux inondations. Le cas à Bomongo Centre et des localités périphériques dans les territoires qui portent le même nom. Depuis 1 semaine, indiquent des témoins, les quartiers Boputa et Bokotola sont sous les eaux. Conséquence, les murs empuisés de l'épée Bobenda, épée Liboso, épée Misele et de l'Institut Mambonga 2 se sont écroulés. Les habitants dont les maisons restent inondées sont allés s'abriter dans les bâtiments scolaires, actuellement libres à cause de la grève des enseignants. Par ailleurs, la circulation devient périlleuse le long de la route Boudjala-Akula dans le Sud-Ubangi. Elle est coupée sur plusieurs tronçons par les inondations. Jean-Robert Lambo, porte-parole de la jeunesse de Boudjala, qui revient d'un voyage à Akula, indique qu'il a dû recourir à des piroguiers pour transporter sa moto et continuer le voyage. Sur place à Akula, il a trouvé des écoles dont les élèves suivent les cours les pieds dans l'eau. Partout, les sinistrés lancent un appel aux autorités afin de leur apporter une assistance urgente. Bandaka, Porcha Malengela, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, plus de 70 décès sont enregistrés dans les camps de déplacés de Kwamout à Bandunduville. Ils avaient fui récemment les violences liées aux conflits intercommunautaires dans le Maïndombe. Ces déplacés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles affirment qu'ils sont abandonnés à leur triste sort. À Bandunduville, la correspondance d'Irène Boma.
Nous sommes au quartier Malebo, précisément au camp des déplacés de Kwamout, vivant dans la ville de Bandundu. Ici, la situation de ces déplacés internés, parmi lesquels les femmes et les enfants, est de plus en plus déplorable, comme le témoigne Bienvenu Kassiama, l'un d'entre eux.
La vie n'est pas bonne. Quand vous venez ici au site Malebo, vous trouverez les enfants qui sont malades. Il y a la malnutrition aux enfants et même les parents. Nos enfants sont non scolarisés, nous mangeons difficilement. Il n'y a pas de toilettes. Nous démenons aux parcelles proches pour demander encore des toilettes, faire des petits besoins, grands besoins. On se lave la nuit, c'est pas la journée. Il n'y a pas de douche, comment se laver en plein air?
Selon lui, des cas de décès ne cessent de se multiplier dans ces sites à la suite de toutes ces conditions de vie précaires.
Depuis que nous sommes là, il y a une multitude de décès qui s'ajoutent. C'est plus de 70 décès, des petits-enfants, mais il y a aussi les vieillards qui meurent.
Bienvenue Kassia Malas, NSOS, auprès du gouvernement congolais, afin de leur venir en aide.
Nous demandons l'assistance à l'État congolais. Nous sommes aussi congolais comme tout le monde. L'État ne s'occupe pas de nous.
Il s'est signalé que cela fait plus de 8 mois que ces personnes déplacées n'ont bénéficié d'aucune assistance de la part du gouvernement, ont-elles déclaré. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Et au nord Kivu, Mushaki, une cité stratégique située à environ 40 km à l'ouest de la ville de Goma, dans les territoires de Masisi, dispose d'importantes potentialités économiques. Le député provincial Alexis Bahunga fait remarquer cependant que la perte de cette cité porterait un sérieux préjudice à la province. Il est au micro de Denise Lukesu.
Mouchaki, c'est un passage obligé. Son importance économique est que Mouchaki, c'est un marché de bétail, donc les gros et petits bétail, parce que tous les fermiers prennent leurs vaches et leurs chèvres et viennent les vendre à Mouchaki, ce qui fait que c'est un carrefour pour les fermiers. Deuxième chose, c'est que Mouchaki, c'est la route qui mène à Massé Centre et à Walikale. Donc si Mouchaki est occupé par des assaillants, ça fait que ça va bloquer la route. Personne n'ira plus à Massissi ou à Walikale. Donc tout ce qui a comme d'arrêt aux produits manufacturés de Goma n'ira plus à Massissi. Et ça sera donc un problème pour la province. Et tout même que la province perçoit des taxes là-bas. Et donc il y a des postes de perception aussi de la province pour ces différentes taxes. Il y a aussi un autre aspect, c'est que Mouchaki s'est devenu un centre touristique. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent de Goma, qui viennent d'ailleurs, qui en voulant visiter Massissi, comme Massissi est une zone verte. Il passe par Mouchaki, là où il y a des fermes qui ont une certaine verdure, et les gens s'y rendent pour aller visiter ces différentes concessions en termes de tourisme. Voilà donc les trois types d'importance économique regorge Mouchaki.
Nord Kivu encore à Beni précisément. La prison centrale de Kamboaï a reçu hier mardi après-midi du CICR des vivres constitués de la farine, de maïs, de manioc, de haricots, de l'huile de palme et de sel. C'est pour nourrir les détenus. Explication à ces sujets de la chef de bureau du CICR, Diane Stocklin, s'est confiée à Marc Marofimo.
Comme vous le savez, dans le cadre de son mandat visant la protection des personnes affectées par les conflits armés, le CICR mène des visites régulières dans certains lieux de détention en RDC, tels que la prison urbaine de Beni. Les visites du CICR visent à assurer le traitement humain des personnes privées de liberté et l'amélioration des conditions de détention, au besoin, à travers un appui aux autorités détentrices. Par rapport à cette assistance qui a commencé il y a 3 jours, donc lundi dernier, c'est une assistance en nourriture ad hoc pour la totalité de la population carcérale de la prison et qui aura la durée d'un mois, et elle vient compléter les efforts fournis par les autorités pénitentiaires et la zone de santé de Beni. Cette assistance s'ajoute également au programme CICR qui sont déjà en cours dans la prison urbaine de Beni et qui continueront d'ailleurs en 2024.
On en vient maintenant à l'actualité politique. À 2 semaines des élections générales en RDC, les candidatures féminines en campagne sont de plus en plus visibles ici à Kinshasa. La CENI assure que 17% des candidats à la députation nationale sont des femmes sur 25% à la députation provinciale. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO juge faible ce taux d'alignement des femmes. La députée nationale Christelle Vuanga encourage les femmes à exercer leur droit de vote. Explication de Michel Kefinangoy.
Comparativement au processus de 2018 qui a aligné 11,7% des femmes à la députation nationale et seulement 11% d'entre elles sur les 500 ont été élues, le taux de participation est légèrement amélioré au cours de ce processus de 2023. Salut Julienne Lusenge.
Je me réjouis de voir la participation des femmes aux élections, mais il y a des partis politiques qui n'ont pas aligné les femmes.
Ce qui pousse Annie Matundu de CAFCO d'affirmer que la réforme de la loi électorale n'a pas beaucoup aidé à la participation de la femme.
L'article 13 qui stipule que les listes des partis politiques qui vont aligner 50% des femmes seront exemptées des frais de caution, mais il n'y a pas eu de mesures contraignantes.
L'auteur de l'amendement de l'article 13 de la loi électorale estime que le secret pour l'élection des femmes reste la campagne électorale. Christelle Vuanga.
Lorsque j'ai porté cet amendement sur l'encouragement des candidatures féminines, c'était évidemment dans cet esprit de booster les femmes à être non seulement éligibles, mais aussi à être électrices.
L'élu de la FUNA invite les femmes électrices à accorder plus d'attention aux candidatures féminines afin de garantir un taux élevé de participation des femmes dans les institutions du pays.
Et puis le candidat numéro 20 poursuit son séjour dans le Grand Katanga où il est arrivé hier. Ce mercredi, Félix Tshisekedi Tshilombo était à Likasi, une ville située à 120 km de Lubumbashi. Lors de son meeting, il a demandé à l'assistance de lui renouveler sa confiance pour qu'il puisse continuer et consolider ce qu'il a déjà commencé. Il a condamné en même temps le tribalisme et le séparatisme. Pour lui, c'est ensemble qu'on est fort. L'ennemi compte sur nos divisions pour nous fragiliser, a-t-il ajouté. Il a appelé les uns et les autres à être tolérants et à cultiver le vivre ensemble. De son côté, Denis Mukwege, candidat président de la République, est arrivé cet après-midi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Il tient ce soir un meeting à l'esplanade de la Poste. Et puis le candidat président Adolphe Mouzito est arrivé à Kananga ce mercredi. L'ancien premier ministre s'est adressé à la population place Mukenge Shabantu. Il a salué à l'occasion les réalisations du président sortant et a sollicité la confiance de la population pour faire ensemble, pour faire mieux. Élu président de la RDC après les élections, Adolphe Mouzito promet d'augmenter le budget de l'État congolais et d'améliorer les conditions de vie des policiers et des militaires. Autre nouvelle, en Ituri, le Parlement de jeunes fustige l'utilisation des déplacés par certains acteurs politiques à des fins électorales. Le coordonnateur de cette structure dit avoir constaté que des politiciens profitent de la vulnérabilité des déplacés à qui ils remettent de modiques sommes d'argent lors de leurs meetings populaires de campagne. Gloire Abassi au micro de Jean-Claude Lokidile.
Ce n'est pas un problème, un citoyen puisse aller accueillir son leader, soit la personne qu'il veut à l'aéroport. Mais ce que nous avions déploré, c'est du fait que les déplacés qui sont là, conformément au droit international humanitaire, ce sont des personnes qui sont vulnérables. Mais nous avions plutôt constaté la manipulation de ces gens. Beaucoup des candidats pensent qu'ils ont la population derrière eux, mais les gens partaient plutôt à l'aéroport pour ne plus que se retrouver ou avoir une petite chose comme argent et pour des petits montants de 5000 francs. Vous pouvez être déplacé ou ne pas être déplacé, mais pendant cette période, c'est le moment de se choisir les gens qui vont sûrement plaider notre cause. On a plutôt senti les gens courir de gauche à droite. Aujourd'hui, la tête des gens est affectée par l'argent. Or, l'argent ne doit pas sûrement donner solution à tout ce que l'Ituri est en train de passer. L'Ituri se doit aujourd'hui des leaders qui doivent mettre en amont et en aval l'intérêt supérieur de la province de l'Ituri.
La suite du journal. À Beni au Nord Kivu, une hausse des prix de la braise est observée sur les marchés depuis quelques jours. Les vendeuses attribuent cette situation à la rareté de la marchandise suite à l'insécurité qui sévit ce jour-ci dans la région. Radio Okapi Beni, Rose Kitenge.
Un sac de charbon de bois qui s'est vendu il y a deux semaines entre 50 000 francs et 60 000 francs congolais s'est négocié actuellement à 90 000 francs congolais sur les marchés à Beni. L'insécurité dans certaines zones de fabrication et l'expédition vers d'autres villes du Nord Kivu des quelques sacs de charbon de bois disponibles sont à la base de cette situation. Kakule Vana Ase, fournisseur de charbon de bois au marché Mayango C à Beni, explique.
Premièrement, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est là qu'il faut brûler les braises sont en train de faire la culture des haricots. Alors, pour réussir à fournir cette ville, un braise devient difficile.
Cette situation contraint un bon nombre de personnes à se rendre à Oicha, à 25 km de Beni, pour se procurer des charbons de bois. Certaines femmes vendeuses de frites dans la ville de Beni parlent d'une situation qui affecte leur commerce. L'une d'elles témoigne.
C'est vraiment très compliqué qu'ils s'efforcent de réduire le prix de la braise. Je prépare du frites, nous n'en bénéficions pas du tout vraiment qui nous aide. Nous ne sommes pas capables de faire hausser le prix car nos clients sont habitués au même prix. Nous avons un manque à gagner tous les jours à cause de cette hausse du prix de la braise.
Le charbon de bois est utilisé dans plusieurs ménages et restaurants de Beni.
Et puis au Maniema, les cadres et agents de l'Institut supérieur de développement rural ISDR ont organisé un sit-in devant la banque Tembe Kindu. Ils réclament leur salaire d'octobre et de novembre. La requête est formulée par leur porte-parole de circonstance, Voltaire Mbili Kamango, au micro de Florence Kizalunga.
Ça vous surprend certainement, ici vous êtes en présence des agents de l'ISDR. Tous sont mobilisés et c'est le deuxième jour que nous sommes ici dans l'enclos de la TMB. C'est tout simplement parce que depuis que le trimestre a commencé, tous les agents de l'ISDR n'ont pas perçu leur salaire. C'est surprenant. Alors nous nous sommes renseignés ici à la TMB, le gérant nous dira que l'enveloppe de l'ISDR a été amputée. C'est insuffisante par rapport aux agents qui doivent percevoir ces salaires-là. Et l'OD national a écrit une lettre à la banque
banque centrale nationale pour compléter cela. Et des salaires Isder Kibombo et Isder Kabambar qui est venu. Alors que ces deux institutions n'ont pas ces problèmes-là. Déjà, le message pour le paiement des salaires de novembre pour les autres institutions est déjà sorti. Ils commencent à percevoir. Nous, aucun. À l'institution, il n'y a plus rien. Les étudiants sont en chômage. Tous les bureaux sont fermés parce que les agents ne savent pas comment aller travailler alors qu'ils ont faim. Maintenant, là, nous réclamons des mois. Sinon, les choses vont continuer à se gâter à l'ISDER. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rester chez nous jusqu'à ce que l'État va nous remettre dans nos droits.
Actualité internationale.
Au Gabon, Brice Oligui Nguema, le président de la transition, est en visite depuis cet après-midi à Yaoundé, au Cameroun. Une visite attendue de longue date depuis la prise de pouvoir de ses généraux au palais de la rénovation de Libreville. Il s'était déjà rendu récemment chez tous ses homologues de la sous-région, sauf à Yaoundé, où il va rencontrer le président Paul Biya. Et puis le président russe est arrivé ce mercredi à Riyad, deuxième et dernière étape de son déplacement au Moyen-Orient, avec au programme de son séjour les conflits israélo-palestiniens et le pétrole. Vladimir Poutine, que les Occidentaux cherchent à isoler depuis son offensive en Ukraine et qui a limité ses déplacements à l'étranger, effectue un retour sur la scène internationale.
L'invité.
Notre invité, c'est le secrétaire général du Centre médico-légal de l'Université officielle de Bukavu. Le professeur Arnold Nyaluma affirme à Radio Kapi que ce centre constitue un pont entre la justice et la médecine. Il s'entretient à Bukavu avec Jean Kassami.
Professeur Arnold Nyaluma, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'acquérir un centre à l'Université officielle de Bukavu. Ça s'appelle comment et ça va servir à quoi?
Le centre médico-légal sert de pont entre la justice et la médecine. Donc là-dedans, il y aura des activités de recherche, de laboratoire, qui pourraient notamment permettre d'élucider certaines questions en justice. Parfois, on a cherché des traces de viol sur le corps de la victime ou sur le corps de l'auteur. Parfois, on a du mal à déterminer des causes lointaines du décès lorsqu'on a trouvé un cadavre. Aujourd'hui encore, il y a d'autres questions. Les gens veulent retrouver leurs origines à 3 ou 4 générations. Et tous ces services-là, c'est à travers un centre médico-légal. C'est donc une spécialisation en médecine, mais qui est tournée essentiellement vers le droit.
Pensez-vous, professeur, que votre université, l'IOB, dispose de tout le nécessaire pour faire fonctionner convenablement ces centres?
Oui, l'université a des compétences qu'il faut, la volonté également, le moyen. C'est vrai qu'on n'a pas tous les moyens nécessaires. Vous voyez qu'avec le fonds propre, on est en train de construire une morgue et donc les moyens sont là. Mais l'idée aussi, c'est que le centre doit être générateur de moyens. La manière de le gérer permettra de rendre un certain nombre de services à la population. C'est vrai, on est une université publique et donc on doit rendre d'abord des services publics gratuits. Mais la participation au prêt permettra de maintenir les infrastructures, mais aussi d'en construire d'autres. Mais la grande construction, c'est d'abord de l'homme, c'est-à-dire les recherches qui vont être menées à partir de ces laboratoires va nous permettre de produire des médecins légistes, des criminologues spécialisés, des juristes spécialisés en médecine, en droit médical, etc. Et donc nous pensons que d'ici 5 ans, les ressources humaines qui font défaut dans la région seront disponibles également.
Parlons des indemnités destinées aux médecins légistes. Quelque part, je vous ai senti dubitatif.
Parce que entre la pratique et la loi, il y a une grande marge. L'article 51 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque les médecins ont presté comme experts, ils ont droit à une indemnité. Alors ce n'est pas le justiciable qui paye. C'est le gouvernement qui doit devoir payer. L'on distingue selon que le médecin requis est déjà payé par le gouvernement ou pas, mais à côté des prestations de médecin, il y a du matériel qu'on utilise. Et donc nous aurons, je l'espère bien, un accord avec le ministère de la Santé, avec le ministère de la Justice, pour que l'on dise comment ces indemnités seront payées par le gouvernement congolais pour financer le centre. Sinon, s'il n'y a pas de financement, et si tout est gratuit, le centre ne pourra pas survivre.
vous constatiez quelques incohérences quant aux décisions judiciaires avant lesquelles vous pensez vont appartenir au passé.
Par exemple, dans la loi sur les violences sexuelles, il est prévu qu'avant de commencer le procès, le psychologue et le médecin doivent évaluer la situation de la victime pour savoir si elle peut tenir un procès. Or, jusque-là, le médecin était désarmé. On a eu beaucoup de cas où on renvoie effectivement des réquisitions à un médecin, mais le médecin est désarmé, ne fait pas faire l'autopsie, il y a beaucoup d'examens qui ne sont pas effectués. On a eu beaucoup de cas, des procès autour de la paternité ou de la maternité, ou des liens familiaux, et jusque-là, nous n'avions pas de réponse dans la région. Donc, nous pensons qu'avec l'avènement de ce centre, il y a beaucoup de questions de justice qui seront élucidées.
Professeur Arnold Nyaluma, je vous dis merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le secrétaire général du centre médico-légal de l'UOB, l'université officielle de Bukavu. Le professeur Arnold Nyaluma était interviewé à Bukavu par Jean Kassami. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Pélé Kipelamondo qui m'a accompagné.